Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Après un été très studieux et chargé pour notre évêque, nous sommes très heureux de le retrouver pour l'entretien du mois. Monseigneur Haillé, bonjour.
Bonjour.
Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monseigneur Haillé, vous avez passé un bon été.
Un bon été, bien chargé comme vous le dites. J'ai pas mal sillonné la France pour plusieurs retraites que j'ai prêchées. Quelques jours aussi de repos en famille, en Bretagne. Et puis surtout les JMJ, les fêtes de Bayonne, enfin beaucoup d'activités pastorales.
Parlons des JMJ, une image des JMJ qui vous vient tout de suite comme ça.
Plusieurs images, d'abord dans le diocèse, notre messe à Lourdes devant le rocher de Massabielle. Tous ces jeunes qui venaient de pays si lointains comme les Coréens, les Thaïlandais, les Lituaniens, les Brésiliens, qui venaient évidemment pour la première fois à Lourdes et qui résonnent dans leur cœur comme un mythe, un peu, dans leur pays lointain. C'était beau de les voir là, tout à fait, les yeux écarquillés en regardant la petite statue de la grotte de Lourdes. Et puis à Madrid, les images qui me viennent le plus, c'est ce temps de silence devant le Saint-Sacrement sur l'aérodrome Cuatro Vientos, 1,5 million de jeunes, après une tempête dans laquelle ils étaient d'ailleurs exubérants en criant et en scandant le nom du pape ou en criant « Est a est la juventud del papa ». Voici la jeunesse du pape, ce quart d'heure à genoux, devant le Saint-Sacrement exposé, en silence complet. Un silence qui était palpable, que l'on entendait, dirais-je. Ce sont des images qui me frappent.
Alors revenons sur quand même l'accueil des 1200 jeunes pèlerins étrangers dans le diocèse. C'était du 11 au 15 août. Paris réussi pour la pastorale des jeunes du diocèse.
Magnifique. C'est vrai que nous avions finalement accepté, nous avions demandé plus exactement à Madrid si nous pouvions être retenus comme diocèse d'accueil, au même titre que les diocèses d'Espagne. Et à notre grande surprise, ça a été accepté sans difficulté. Et pour nous, c'était l'occasion de booster un peu la pastorale des jeunes et l'inviter vraiment à s'organiser pour les années à venir. Et c'est vrai que c'est un pari tenu parce que nos responsables de la pastorale des jeunes dans le diocèse, l'abbé Jean-Paul Martinon et l'abbé Dominique Nalis, avec toute une équipe qui s'est mise en place depuis plus d'un an, évidemment, avant l'événement, eh bien, a vraiment organisé les choses, préparé les choses avec le concours des jeunes eux-mêmes, des seniors, des doyens ou des curés, de beaucoup de forces vives de notre église diocésaine. Et tout s'est passé, j'allais dire, comme sur des roulettes.
Les familles du diocèse ont répondu présentes.
550 familles, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et en particulier dans le Pays Basque intérieur, j'étais tout à fait frappé de voir le nombre de jeunes qui ont pu être accueillis en Galassie-Baïgorry ou en Amicoussé. Enfin, c'est quand même assez impressionnant de mobilisation et qui, encore une fois, est un signe de vitalité, non seulement pour les jeunes eux-mêmes. On voit bien que, comme on l'a tous dit à propos des JMJ et des images des JMJ à Madrid, l'Église est décidément vivante et jeune. Mais dans notre diocèse, il y a aussi une très belle faculté de mobilisation.
Alors à Madrid, vous avez parlé de la veillée de prière à Cuatro Vientos, mais quels sont, vous, les moments en tant qu'évêque qui vous ont peut-être interpellé dans votre mission d'évêque?
Alors c'est la première fois que je participais comme évêque au JMJ, donc c'est une première, et en même temps je vois que c'est aussi une adaptation qui n'est pas facile, parce que en plus j'étais évêque catéchiste, donc j'étais très heureux de pouvoir donner des catéchèses dans ces 3 jours de catéchèses à Madrid, à 3 groupes différents, et dont au moins une fois, heureusement, le vendredi, la dernière, avec les jeunes de mon diocèse, et d'autres qui s'étaient joints, bien sûr, dans ces lieux de catéchèse francophones. Mais je me suis senti quelquefois un petit peu, du fait que j'étais avec les évêques, du fait que j'avais ces catéchèses, du fait que nous avions un statut un peu à part pour les grandes rencontres avec le Saint-Père, je me suis senti un petit peu déconnecté, même si ma grande joie, ça a été évidemment de retrouver les jeunes, et je pense grâce surtout aux journées qui ont précédé dans notre diocèse, où là j'ai senti que le contact de l'évêque avec les jeunes et les jeunes du diocèse était passé, et ça m'a donné à penser qu'il faut que je sois encore plus proche hein, avec l'aide évidemment de tous ceux qui sont engagés dans la pastorale des jeunes, mais que en tant que pasteur du diocèse, je sois encore plus proche des jeunes. C'est d'ailleurs, j'ai d'ailleurs pris une résolution au terme de ces JMJ d'ouvrir une adresse mail particulière où les jeunes pourront me contacter directement, me poser des questions, car je crois qu'ils ont beaucoup de questions. C'est ce qui m'a frappé aussi pendant ces JMJ, en particulier à travers les catéchèses, et ça a été universellement noté par les évêques. Et je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une instance où je puisse répondre en direct, mais aussi avec des équipes d'animateurs, de prêtres qui s'occupent de la pastorale des jeunes, qui puissent aussi m'aider à répondre à toutes ces questions que les jeunes portent sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'Église dans le monde, et sur leur foi. Et je vois en particulier que, au cours de ces catéchèses, les jeunes ont beaucoup de questions sur la foi.
Monseigneur Haye, lors de ces JMJ de Madrid, il y a eu des oppositions, notamment des contre-manifestants pendant la durée des JMJ. Vous avez abordé devant les jeunes, en catéchèse, vous en avez parlé. Vous avez donné aussi des exemples de jeunes chrétiens qui se sont interposés pour défendre des prêtres.
Oui, je dirais que là, on dira que les JMJ sont vraiment le lieu des contrastes. Contraste entre ces 1,5 million de jeunes extrêmement pacifiques, paisibles, qui n'ont causé aucune intervention de police pendant 4 jours à Madrid, toujours dans la joie, jamais dans la violence, et jamais même dans la réponse à la violence. Et puis, ce groupuscule, finalement, hein, de personnes, jusqu'à 4000 a-t-on dit, dans la presse, mais mobilisés par plus de 150 associations différentes, extrêmement virulents, parfois même violents, et on a vu, en effet, des jeunes qui ont carrément usé de violence physique sur des jeunes JMJistes qui n'ont pas répondu à la violence et qui protégeaient deux prêtres qui étaient visiblement la cible de ces militants extrêmement virulents. Donc je dirais que le contraste a joué aussi dans les relations de presse, car je crois que dans la presse française en particulier, on a beaucoup insisté et beaucoup mis le projecteur sur ces groupuscules, beaucoup moins sur ces 2 millions de jeunes qui venaient quand même à la rencontre du Christ et aussi à l'invitation du Saint-Père. Et pourtant en Espagne, c'est vrai qu'on a senti aussi les journalistes se laisser eux-mêmes saisir par le succès de ces JMJ et rapporter avec beaucoup de reportages photos et beaucoup d'adjectifs et de superlatifs et bien ce succès et cet enthousiasme des jeunes pour le Saint-Père.
Monseigneur, vous avez eu l'occasion de retrouver une partie des jeunes JMJistes du diocèse à Belloc, récemment à l'abbaye de Belloc, avec la pastorale des jeunes. Comment voyez-vous cette dynamique des JMJ pour la pastorale des jeunes cette année ?
Alors c'est évident qu'il y a eu deux moments de retour qui m'ont beaucoup frappé ces derniers jours. D'abord, il y a eu en effet cette rencontre de Belloc, où presque 200 jeunes quand même sont revenus, et ont fait un peu... j'allais dire un débriefing de leur expérience des JMJ. Ça a été très fort. Je crois que là, on sent qu'il y a un véritable enthousiasme, qu'il y a un vrai désir d'être témoin et de témoigner déjà de cette expérience. Donc à travers le témoignage de cette expérience des JMJ, qu'ils ont vraiment le désir de porter dans leur paroisse, dans leur communauté, ben c'est déjà être témoin de Jésus, comme le Saint-Père les a exhorté à la fin des journées à Madrid. Et puis aussi, un temps très très beau aussi à Lourdes, au cours du pèlerinage diocésain, sur lequel nous reviendrons sans doute, mais il y a eu, pendant l'après-midi du samedi, une heure de témoignage des jeunes, en musique aussi, devant les malades, les hospitaliers qui étaient là. Et j'ai senti que ces jeunes ont fait vraiment à la fois une expérience de rencontre hein, avec d'autres jeunes de toute nationalité, et ça les a évidemment beaucoup marqués, et puis aussi une véritable expérience spirituelle, et ils savent en rendre compte, et je trouve qu'ils sont quand même très étonnants, à la fois tout à fait dans la fête, et en même temps dans la ferveur, et j'ai bien senti que tout cela les avait marqués, que ça va en effet orienter la pastorale des jeunes pour cette année, pour les années à venir. Et nous aurons d'ailleurs une rencontre du Forum des jeunes, donc le 11 novembre prochain, avec les animateurs en particulier, pour bien fixer tout ce que nous pouvons mettre en place à partir des JMJ.
Revenons maintenant, si vous le voulez bien, Monseigneur Haye, sur le pèlerinage qui s'est tenu à Eibar le 31 août. C'était le pèlerinage en l'honneur de Saint-Michel Garicoïtz. Alors vous y étiez, c'est la première fois que vous présidiez ce pèlerinage. Quelles impressions ?
Un temps de grande ferveur. J'étais très heureux de cette messe je ne sais pas compter le nombre de personnes, mais j'ai trouvé que c'était quand même très bien fréquenté par les fidèles du Pays Basque en général. Et cette messe tout en basque, hein, que j'ai, sauf l'homélie que je n'ai pas pu évidemment prononcer en basque encore, mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle ferveur et je voyais là la manifestation de cette foi très enracinée dans notre Pays basque, qui est une terre de saints, hein, en particulier cet Ostibarret avec la maison natale dans laquelle nous sommes rendus l'après-midi pour un chemin de croix et un temps d'adoration eucharistique. La terre natale et la maison natale de Saint Michel Grecos, qui a tant d'importance dans notre diocèse, puisque il était prêtre diocésain, il est mort prêtre diocésain, tout en ayant fondé cette communauté des pères du Sacré-Cœur de Bétharame.
Alors vous parlez de prêtre diocésain, vous avez inauguré, vous avez béni les nouveaux locaux du séminaire le 11 septembre dernier, et vous aviez fait venir à cette occasion les reliques du Saint Curé d'Ars. Alors comment vous voyez la suite des événements pour ce séminaire diocésain ?
Alors donc moi je suis évidemment dans l'espérance pour avoir pu bénir ces nouveaux locaux, hein, qui sont situés au couvent des Capucins de Bayonne, qui ont été évidemment complètement restaurés pour la cause, dans l'espérance parce que je vois bien que cette fidélité à la prière pour les vocations qui caractérise notre diocèse depuis longtemps, en particulier qui s'est un peu cristallisée à travers l'adoration perpétuelle mise en place dans le diocèse depuis un peu plus de 2 ans, la fidélité aussi de nos consacrés que j'ai aussi beaucoup visités depuis que je suis arrivé dans ce diocèse, souvent dans l'épreuve, en temps de pénurie, en particulier pour leur propre vocation, mais la fidélité à leur consécration, eh bien je vois que tout cela est très fécond. Et que cette fécondité bien se manifeste, et c'est pure grâce, hein, à travers cette vingtaine de jeunes qui voudraient répondre à l'appel au sacerdoce pour servir l'Église dans notre diocèse. Donc c'est un témoignage d'espérance, comme je l'ai dit le jour de l'inauguration, je pense que ça se situe dans une grande continuité. Nous renouons avec notre histoire, parce que l'histoire du diocèse est une histoire riche en vocation, que tous les prêtres présents, il y avait d'ailleurs une cinquantaine de prêtres représentant le presbytérium diocésain, ont été formés dans un séminaire diocésain, celui de Bayonne, et que ce séminaire est une institution qui faisait depuis longtemps corps avec la vie et l'histoire du diocèse. Donc je pense que nous renouons avec l'histoire, c'est une grande continuité, et en même temps, il y a un signe de renouveau, évident, parce que le Seigneur fait toute chose nouvelle, après un temps de fermeture, peut-être, après un temps de pénurie qui a pesé beaucoup sur les prêtres et les fidèles depuis quelques années, et on voit bien qu'il y a un renouveau qui semble s'amorcer. Alors j'espère beaucoup, d'espérance théologale, que l'essai sera transformé, que le Seigneur continuera à susciter des vocations dans nos communautés chrétiennes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et que nous pourrons peut-être encore pousser les murs et agrandir encore l'espace de notre tente pour former ces prêtres pour aujourd'hui et pour demain.
Vous avez certainement lu la tribune libre d'un prêtre du diocèse dans un journal local qui vous soutient à 100% par rapport à tout ce que vous entreprenez par rapport à la réouverture du séminaire, etc. Mais qui termine son article en disant est-ce que ces jeunes vont apprendre la langue basque ? Parce que c'est quand même, pour les bascophones, et en Pays-Bas, c'est quand même une inquiétude de savoir que dans 10 ans, il y aura peut-être pratiquement plus beaucoup de prêtres qui seront capables d'officier et de prêcher en basque. Alors, est-ce que c'est un de vos soucis aussi ?
Tout à fait. Alors là, la première fois que j'étais interpellé sur la question, on me disait, oui, bon, des jeunes qui rentrent, qui ne connaissent pas le basque, qui peuvent parfois venir de l'extérieur, même s'ils ont en effet un lien familial avec le diocèse, qui connaissent pas le basque, et tout ce qu'on a mis en place pour la pastorale en langue basque, pour la messe, pour la catéchèse, etc. J'ai répondu, c'est vrai, dans un premier temps, j'espère bien que nos communautés paroissiales du Pays basque, de la côte basque, du Pays basque intérieur, sauront susciter des jeunes qui rejoindront le séminaire pour reprendre le relais. Mais c'est une préoccupation, et figurez-vous que, c'est peut-être un scoop, mais quelques-uns de ces jeunes ont le désir d'apprendre le basque, et j'ai déjà contacté un prêtre pour pouvoir apprendre le basque à ceux qui le désirent. Donc pour moi, c'est très important que ces jeunes qui veulent s'approprier aussi l'histoire du diocèse et la passoire dans le diocèse, eh bien, puissent en effet connaître au moins quelques rudiments de la langue. Et je crois que c'est mieux qu'ils l'apprennent avec un prêtre, condition qu'ils soient un peu pédagogues, parce que ce sera la langue parlée. la langue parlée par les gens dans nos communautés, alors pour la liturgie sans doute, et donc je pense que ça c'est très important, et parlée par des prêtres.
Et peut-être que vous irez prendre les cours avec eux.
J'espère que je pourrai parfaire moi aussi, si le temps me le permet, de mon utilisation de la langue basque.
Oui, Monseigneur, il y a également un moment d'unité très très fort chaque année entre Basques et Béarnais dans le diocèse. C'est le pèlerinage diocésain qui d'ailleurs est précédé par le pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise qui avait lieu donc il y a quelques jours. Vous étiez à Lourdes. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces quelques jours que vous avez passés sur place?
Alors cette année, ce qui me marque toujours d'abord, c'est la puissante hospitalité basco-béarnaise, hein, qui peut rassembler quand même un nombre assez impressionnant de bénévoles auprès de nos malades, hein, qui sont pris en charge, à peu près 450 je crois cette année. Et aussi toujours ce qui m'impressionne, c'est ce sont ces presque 200 jeunes lycéens, pour l'essentiel d'enseignement catholique, quelques-uns aussi d'enseignement public, et qui font cette expérience avec les hospitaliers de l'accompagnement des malades, et qui sont effectivement chamboulés au fond d'eux-mêmes, non seulement par l'ouverture aux autres que cela suppose, mais aussi pour la rencontre spirituelle qu'ils font aussi avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, à travers ces temps forts, en particulier à la grotte ou dans les sanctuaires. Mais cette année, il y a quand même une première qui m'a semblé très importante. C'est vrai que depuis que je préside ce pèlerinage diocésain, c'est la troisième année que je le préside, j'avais été frappé de la journée dite des familles, où finalement on voyait pas beaucoup nos diocésains, parce que le matin, nous étions un peu obligés de participer à la messe internationale, que l'évêque de Bayonne, sans doute c'est prestigieux, présidait, mais bon, ça dissuadait peut-être pas mal de nos diocésains de venir à cette messe, parce que d'abord ils n'y trouvaient pas de place, ou alors il fallait partir très très tôt. Et puis nos malades qui étaient là en avance, très avant la messe, donc pour qui le temps de station devenait très long. Et j'ai demandé, moi l'an dernier, au recteur des sanctuaires s'il était possible de revenir à l'ancienne formule, avant l'an 2000 je crois, où nous pourrions avoir la messe en diocèse. Ce qui a été accordé, et nous avons pu avoir la messe avec les familles qui ont rejoint les hospitaliers et les malades qui étaient là, eux, depuis vendredi, dans l'église Sainte-Bernadette, qui était quasi comble, et d'une messe magnifique, préparée par le service de pastorale liturgique sacramentelle du diocèse. Et là, on était vraiment en famille. Et ça, pour moi, c'était une très grande grâce, une grande joie, qui a duré toute la journée, hein, avec les vêpres l'après-midi, toujours à Sainte-Bernadette. Puis ensuite, on a présidé la procession eucharistique du sanctuaire, des sanctuaires. Et je l'ai senti aussi quand j'ai visité, comme chaque fois le dimanche soir, les malades au cours des petites veillées festives qui sont faites à tous les étages. J'ai senti les hospitaliers très très heureux, me remerciant de cette journée en diocèse. Et j'ai senti aussi que c'est vraiment la famille diocésaine. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de chants en basque, parce que la langue basque est une langue liturgique, et puis c'est plus identifié encore, hein, et plus caractéristique. Mais j'ai senti tout le monde très heureux de se retrouver ensemble. Et même dans les étages, j'ai un peu fait de l'humour quand je suis allé rencontrer certains secteurs où il y avait en même temps des Béarnais et des Basques pour une veillée commune. Alors j'ai dit, ça voilà, la mayonnaise prend, c'est magnifique.
Monseigneur Ayé, nous enregistrons cette émission le lundi 26 septembre. Ça fait quelques semaines déjà que la rentrée scolaire a eu lieu. Parlons un peu de la rentrée de l'enseignement catholique. Vous avez notamment présidé une messe de rentrée, c'était à Pau le 7 septembre.
Alors chaque année, en effet, nous avons début septembre, après les premiers jours de rush des rentrées qui mobilisent évidemment les chefs d'établissement, les enseignants dans leurs établissements, nous avons donc une messe dite de rentrée au cours de laquelle les nouveaux chefs d'établissement reçoivent leur lettre de mission de la tutelle diocésaine ou des tutelles congréganistes. Et donc nous avons eu cette messe le 7 septembre à Sainte-Thérèse de Pau. Chaque année, c'est ou bien dans le Béarn ou bien dans le Pays Basque. Donc ça nous a permis aussi de prendre la mesure de cette rentrée qui se passe bien. Visiblement, nous n'avons pas perdu d'effectifs d'une manière globale, même si dans certains établissements, en particulier lycées professionnels ou agricoles, il y a eu quand même quelques pertes, essentiellement au niveau du lycée. La suppression de postes ne nous a pas trop affectés cette année, semble-t-il, Donc la rentrée est plutôt saine. Alors bien évidemment, la messe de rentrée est l'occasion d'insister sur le caractère propre de nos établissements catholiques d'enseignement et donc sur la nécessité de faire de nos établissements scolaires de vrais lieux de proposition de la foi, de première annonce, d'évangélisation et qui permettent aux jeunes, pour une éducation intégrale, qui est vraiment ce que vise l'enseignement catholique, eh bien de rencontrer le Christ et au cœur de l'Église.
Un mot sur l'introduction dans les programmes de la théorie du gender.
Alors c'est vrai que nous sommes un peu inquiets, hein, et à juste titre, comme beaucoup d'autres, de cette introduction dans les manuels de SVT en première L et ES, de cette théorie du gender qui, comme on le sait, n'est pas une théorie scientifique, donc n'a rien à voir dans un programme scientifique et qui risque en effet de troubler les esprits et de confondre, d'alimenter la confusion qui est latente dans notre société d'aujourd'hui où on semble gommer toute différenciation entre l'homme et la femme, réduisant la masculinité et la féminité à une orientation choisie, alors qu'elle est profondément inscrite, non seulement dans la génétique, dans la biologie, mais aussi dans la psychologie et dans la personnalité profonde de l'homme et de la femme, pour une vraie complémentarité qui enrichit la société, alors que la théorie du gender, en balayant cette différence, eh bien, l'appauvrit énormément et gomme un certain nombre de repères qui sont absolument structurants de la personnalité humaine, et en particulier à l'âge de la croissance qu'est l'âge scolaire.
Monseigneur, en ce début d'année scolaire, comment s'est passée la rentrée de la catéchèse en ce qui concerne aussi bien l'organisation générale que les parcours qui sont adoptés cette année?
Alors la rentrée de la catéchèse, je pense maintenant, à l'heure où nous parlons dans cette émission, est absolument à peu près faite dans toutes les paroisses. Car c'est très vite après la rentrée scolaire que se mettent en place les rencontres de catéchèse dans les paroisses. Cette année, nous avons un souci évidemment évident, puisque nous n'avons plus de responsable du service diocésain ni au Béarn, ni au Pays Basque. Bon, c'est une défection qui était prévue pour le Pays Basque, qui était moins prévue pour le Béarn, qui nous prend un peu au dépourvu, pour assurer l'accompagnement de la catéchèse au niveau diocésain. Bon, ceci dit, nous avons mis en place l'an dernier, à titre expérimental, un nouveau document catéchétique qui a été pris en effet à titre d'expérimentation par certaines paroisses, qui s'appelle Celle de Vie, qui correspond davantage au texte d'orientation de la catéchèse en France qui a été voté par les évêques de France en 2006, qui prend mieux en compte le contexte d'évangélisation dans lequel nous nous trouvons, la nécessité d'une première annonce pour la plupart des jeunes qui sont inscrits au catéchisme aujourd'hui, qui met en responsabilité davantage la communauté paroissiale et pas seulement les spécialistes que sont les catéchistes, qui insiste sur le lien entre la catéchèse et la liturgie, la catéchèse et la vie. Et la vie chrétienne ordinaire. Bon, voilà. Donc, je pense que ce document catéchétique a déjà été mis en place. Nous nous donnons maintenant une année pour reconstituer le service diocésain de la catéchèse, en tout cas dans ses responsables diocésains, parce que les catéchistes relais demeurent, parce qu'il reste quand même pas mal de catéchistes capables sur le terrain d'accompagner la catéchèse. Je pense que ça va être aussi l'occasion pour les prêtres de se mobiliser encore davantage et d'assumer encore plus leur responsabilité de premier catéchiste de leur paroisse auprès des catéchistes. Et nous allons bien évidemment prendre acte de tout cela à la journée de rentrée des catéchistes qui aura lieu à Salis de Béarn très prochainement.
La catéchèse, c'est un gros pan de l'activité d'une paroisse. C'est l'accueil des familles, c'est l'accueil des enfants. Les évêques, vous réfléchissez beaucoup à ces questions de la catéchèse. En une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de changements au niveau des parcours de catéchèse, de manière de faire. Vous-même, je vous ai entendu dire dans une de vos conférences que quand vous étiez catéchisé, vous n'aviez pas appris grand-chose, finalement. Quelle est votre vision de la catéchèse en tant qu'évêque? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut ne plus faire?
Alors c'est sûr que on a voulu améliorer les méthodes pédagogiques de transmission de la foi sachant que les enfants qui sont confiés à nos paroisses pour la catéchèse viennent de milieux très diversifiés et pour beaucoup qui n'ont pas été évangélisés et qui n'ont pas reçu les rudiments de la foi. Donc ça rend effectivement plus difficile sur le plan pédagogique la tâche fondamentale de la transmission de la foi. Mais peut-être que lorsqu'on s'est lancé dans ces nouvelles pédagogies, ces nouvelles méthodes, donc dans les années fin des années 60 finalement, quand moi je faisais ma profession de foi en 69, eh bien on insistait peut-être tellement sur la pédagogie et qui était encore très expérimentale qu'on en oubliait peut-être un peu le contenu. Et c'est vrai que moi je me souviens de la catéchèse préparatoire à la profession de foi, qui ne me laisse pas beaucoup d'autres souvenirs que des dessins, des escargots que nous dessinions, et c'est ma mère elle-même qui me disait « mais tu vas pas faire ta profession de foi si tu connais pas ton credo ». C'est pas que je ne connaissais pas le credo, puisque je le récitais à la messe tous les dimanches, allant avec ma famille à la messe tous les dimanches, mais le sens de la foi m'échappait, et c'est parce qu'en tout cas, c'est ça qu'elle voulait dire, que j'apprenais au catéchisme. Et c'est comme ça qu'elle m'avait, elle, fait le catéchisme elle-même, avec une vieille méthode qu'elle avait à la maison, sans doute, hein, question-réponse de son époque. Mais c'est vrai que ça m'a permis à moi d'intégrer les données de la foi, le contenu de la foi, et peut-être parce que c'était ma mère elle-même qui me le transmettait. Donc il y a aussi cet aspect affectif qui est très important. Et vous voyez, pas seulement cet aspect affectif, mais le fait que, pour moi, la catéchèse, avant une méthode, c'est quelqu'un qui transmet la foi à partir de sa foi. Donc c'est une transmission de la foi à la foi. Quand quelqu'un a une foi convaincue, qui est vraiment un principe de vie chrétienne et de cohérence chrétienne, qu'il a le souci d'éclairer sa foi, donc que sa foi est de plus en plus pensée, hein, donc au contact de l'Écriture sainte et au contact du catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église qui nous transmet la foi, ben je pense que, quelle que soit la méthode, cette personne est capable de susciter la foi et de transmettre la foi, avec ensuite une méthode s'il en a besoin, ou sa propre pédagogie. Donc vous voyez, je n'insisterai pas tant sur la méthode, même si je crois que c'est une aide importante pour les catéchistes, que sur la conviction de la foi et la formation de la foi des catéchistes. Donc ça, je crois que c'est vraiment primordial, et c'est pourquoi je crois qu'il est très important sur place dans les paroisses que les prêtres soient les premiers catéchistes, parce que ce sont les formateurs des formateurs, si vous voulez. Ce sont eux qui sont les catéchistes des catéchistes. Et je sais que dans certaines paroisses, le nouveau document catéchétique, celle de vie, est une grande joie pour le prêtre, parce qu'il lui permet de faire un parcours de foi à ses propres catéchistes. Quand on a fait ça, c'est tout gagné pour les enfants. Vous voyez ? Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut aussi beaucoup insister, et ce qui n'empêche pas qu'il faut trouver des méthodes qui aideront aussi les catéchistes, qui n'ont pas tous la pédagogie nécessaire pour aider les enfants à grandir dans la foi.
Oui, Monseigneur, sans doute y a-t-il une complémentarité entre la catéchèse proprement dite et puis les formations, le souci de la formation des prêtres et plus particulièrement des laïcs, qui est une de vos préoccupations dans le diocèse, avec en particulier une plaquette très bien faite qui s'intitule « Se former dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron 2011-2012 » que vous avez voulu diffuser dans l'ensemble du diocèse.
Alors c'est un point fort en effet du texte d'orientation de la catéchèse en France, que d'avoir souligné que la catéchèse n'est pas seulement réservée aux enfants en âge scolaire, mais qu'elle est réservée à tous les fidèles, et selon les étapes de la vie. Et je crois que d'ailleurs vous avez su aussi qu'au JMJ, le pape a remis, comme un cadeau offert par le pape, c'est inscrit sur la page de garde, un résumé du catéchisme de l'Église catholique, qui a été préparé sous forme de questions-réponses, c'est-à-dire sous forme de dialogue, sous forme dialogique, et dans le langage accessible aux jeunes d'aujourd'hui.
C'est le UCAT.
Le fameux UCAT, qui certainement sera très important aussi pour la pastorale des jeunes désormais. Il y a d'ailleurs des jeunes qui ont décidé de constituer des groupes de partage autour du UCAT. Donc il y a vraiment un souci, qui d'ailleurs est au cœur même du pontificat de Benoît XVI, de cette formation de la foi. Vous voyez, la première annonce, c'est l'annonce du cœur de la foi, comme je l'ai souvent dit ici, qu'on appelle le kérigme, qui est là pour susciter un acte de foi, c'est une adhésion au Christ. Une fois que cette foi est suscitée, il faut la former à travers un enseignement, à travers une catéchèse. Et tous les chrétiens ont besoin, à tous les âges de la vie, de se former. Cette foi, il faut qu'elle soit pensée, qu'elle soit célébrée, qu'elle soit vécue et qu'elle soit priée. Et c'est une mise en place de plusieurs types de formations, comme l'antenne théologique des Pays de l'Adour, comme le CIFAC, comme des cours de catéchèse pour adultes qui se font à travers la formation permanente des laïcs par les services de formation permanente du diocèse. Tout cela et beaucoup d'autres initiatives locales, eh bien, permettent à nos fidèles, à nos chrétiens, de former toujours plus leur foi pour en vivre, et pour pouvoir en répondre, comme dit Saint-Pierre, et c'est le, je dirais, la maxime de l'évangélisation, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous à tous ceux qui vous en demandent raison.
Monseigneur Ayer, cette rentrée, c'est aussi un nouveau lieu de vie qui a ouvert ses portes à Bayonne, à la maison diocésaine.
L'Institut Samuel, voilà, dont on a parlé beaucoup l'an dernier, dont j'ai dit un peu les grandes arêtes dans ma lettre pastorale, qui a ouvert ses portes avec 5 jeunes, donc c'est tout petit, très modeste, mais qui vivent déjà cette expérience avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. J'ai évidemment eu l'occasion de les rencontrer. Donc ils sont sous la responsabilité de l'abbé Jean-Aguier Sabal, qui assure de manière très bonhomme, comme nous le savons, et paternel, sa fonction. Et ces jeunes, il y en a un en quatrième, un en seconde, deux en terminale, un en première année de fac, eh bien, vivent déjà cette expérience avec, encore une fois, beaucoup de joie. Bon, il y a la messe le matin, les complis le soir, un temps d'adoration par semaine. Et je vois que ces jeunes, qui m'ont écrit tous une lettre de motivation, car il s'agit d'adhérer quand même à une charte, c'est un lieu où l'on sait que la vie est organisée autour de la foi chrétienne, qui permet à des jeunes bien de mener à bien un projet de vie chrétienne, peut-être même de discerner une éventuelle vocation sacerdotale.
Cette rentrée aussi, c'est une réorganisation, est-ce qu'il faut dire ça comme ça, une réorganisation du Secours catholique. Que se passe-t-il au Secours catholique?
Alors il y a de secret pour personne que de fait, depuis quelques années, le Secours catholique a décidé de se réorganiser, c'est-à-dire de regrouper des délégations diocésaines pour dégager davantage d'animateurs sur le terrain. Donc c'est une manière de mutualiser davantage les forces qui vont, comme partout, peut-être, en termes de bénévoles, s'amenuisant. Et donc la question était non seulement de regrouper les deux délégations que nous avions, nous, peut-être par privilège d'avoir dans notre diocèse, à Pau pour le Béarn et à Bayonne pour le Pays Basque, mais de regrouper ces deux délégations avec aussi la délégation de Dax et permettre de dégager plus de postes d'animateurs du Secours catholique sur le terrain pour accompagner les équipes locales, les nombreuses équipes locales que nous comptons dans notre diocèse. Donc les travaux de rapprochement entre ces trois délégations se sont déroulés tout au long de l'année. Un des objectifs premiers, c'était de ne pas licencier aucune personne salariée dans ces différentes délégations. Et le pari était tenu, donc c'est déjà un grand soulagement. Et finalement, on est arrivé à un accord d'une seule délégation pour les deux diocèses, pour les deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le siège de cette unique délégation sera à Bayonne, où se trouvera donc le président de la délégation, qui n'est autre que l'ancien président de la délégation du Pays Basque, avec un seul délégué, qui ne sera autre que l'ancien délégué diocésain
des Landes,
et puis un trésorier. Voilà. Ensuite, il y aura deux vice-présidents qui seront d'une certaine manière présidents diocésains, des comités diocésains, donc un qui sera à Dax et un autre qui sera à Pau. Celui de Pau sera l'ancien vice-président de la délégation de Pau et celui de Dax sera l'ancienne présidente de la délégation de Dax.
Monseigneur, vous avez récemment pris position à travers un communiqué sur une affaire locale qui a pris une ampleur nationale très rapidement autour du docteur Bonnemaison à l'hôpital de Bayonne. Le docteur Bonnemaison reconnaissant lui-même qu'il avait mis fin au jour d'un certain nombre de patients âgés considérés comme en fin de vie. Ça relance le débat sur l'euthanasie. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers votre communiqué ?
Alors, il ne s'agissait pas, bien entendu, de faire le procès d'une personne. La justice, de toute façon, est saisie et c'est à elle à mener ce genre d'enquête et d'examen. Mais il s'agissait quand même d'alerter l'opinion publique et la conscience de nos concitoyens sur la gravité quand même de cette infraction de la loi, et de la loi Leonetti en particulier, de 2005. Vous voyez, c'est aussi une manière de dire, attention, l'euthanasie active, en l'occurrence il s'agissait de mettre fin aux jours de personnes sans doute en fin de vie, mais qui n'étaient pas particulièrement mourantes, ni souffrantes, et qui ne demandaient rien. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'il suffit de demander pour que ça justifie un acte comme celui-ci. Et en plus, sans concertation avec les autres médecins et le personnel de son service. Donc c'est quand même très très grave. En l'occurrence, il était important, dans le remous médiatique un peu affectif, que l'on peut comprendre d'ailleurs, qui a suivi cette plainte qui a été déposée par les personnes de son service auprès de la direction de l'hôpital, qui était obligée de saisir la justice, évidemment, c'est la loi qui l'oblige, eh bien, on voit bien que dans ce remue-ménage médiatique, il y a à la fois ceux qui ont intérêt à relancer le débat sur l'euthanasie, et en l'occurrence, pas tout à fait sur les mêmes bases, et en même temps, ceux qui sont effectivement attachés à un médecin, qui est un médecin qualifié, de qualité, qui était d'ailleurs réputé pour qui est réputé pour ses bonnes relations avec les gens et son dévouement, sa générosité, etc. Mais on voit bien que là, il y a une confusion, et c'est sur quoi portait précisément ce communiqué, entre ceux qui sont contre l'acharnement thérapeutique et ceux qui sont pour l'euthanasie. Vous voyez, on est contre l'acharnement thérapeutique, c'est évident, et l'Église est la première voix qui s'est élevée, rappelons-le, dans l'histoire, pour condamner l'acharnement thérapeutique. C'était le pape Pie XII en 1957. Mais on est contre l'euthanasie parce que là, c'est attenter directement à la vie de quelqu'un. Par contre, pour éviter l'acharnement thérapeutique et pour éviter l'euthanasie, il y a les soins palliatifs. Et on sait que la loi 2005, Leonetti, porte précisément sur la promotion de ces soins palliatifs qui sont absolument inégalement répartis en France, et un programme qui n'a pas été suffisamment promu par les responsables de la santé publique. Et je crois que c'est là qu'il faut alerter, en effet, que ce médecin, dans son propre désarroi, devant des fins de vie même imminentes, et c'est vrai que pour un médecin c'est toujours un échec, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, et nous sommes dotés, en effet, à Bayonne, de deux équipes mobiles, et je pense que les équipes mobiles sont là précisément, non seulement pour soulager la douleur des malades en fin de vie, mais aussi pour aider le médecin dans le désarroi bien légitime auquel il peut être confronté.
Autre sujet, Mgr Hayé, ou autre personne en tout cas, c'est le pape Benoît XVI qui est parti chez lui, en Allemagne, faire une visite pastorale.
Voilà, alors donc c'était un voyage sensible, comme disent les médias, mais comme tous les voyages apostoliques, puisque si on suit les sirènes des médias qui annoncent les voyages apostoliques du pape, de toute façon, ça doit mal se passer, il ne sera pas accueilli, les oppositions sont de plus en plus fortes. Bon, c'est vrai qu'en Allemagne, qui est son pays natal, il y a quand même un certain nombre de groupes, bien sûr minoritaires sans doute, mais enfin qui ont la part belle dans les médias, qui ont signé des pétitions pour des réformes très profondes dans l'Église, qui sont d'ailleurs pas nouvelles, puisque ça fait des décennies et peut-être des siècles même qu'on en parle. Mais le pape Benoît XVI, donc sur ce fond un peu sensible, partait dans son pays natal. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même un lien de l'homme avec sa patrie. Et bon, j'ai suivi les choses comme tout le monde, mais un peu de manière décalée, puisque j'étais occupé pour ma part par le pèlerinage diocésain à Lourdes pendant ce temps. Mais je crois que le pape a eu des paroles très fortes. D'abord, il a été bien accueilli par le peuple de Dieu dans les grands rassemblements qu'il a présidé, que ce soit à Berlin, que ce soit à Erfurt ou à Fribourg. Freiburg. Bon, il y a eu sans doute des choses assez fortes qu'il leur a dites, sans compromission. C'est un père quand même qui parle à ses enfants. Et quand un père parle à ses enfants, quelquefois, il peut parfois leur faire de remontrances. Ça ne veut pas dire qu'il ne les encourage pas et qu'il n'est pas capable de voir tout le positif. Et on sait avec quelle douceur, généralement, quelle humilité, ce père, qui est le Saint-Père Benoît XVI, parle à ses enfants. Mais j'ai senti, en effet, dans certains discours, en particulier à Fribourg, qu'il avait été assez incisif sur la crise de la foi, qu'il dit être à l'origine de la crise que connaît l'Église aujourd'hui, en disant que finalement, ce n'est pas d'abord les réformes de structure qui renouvelleront l'Église, mais vraiment un renouvellement de la foi dans le peuple chrétien, dans nos pays de vieille tradition, qui sont quand même marqués par le matérialisme, qui sont marqués par le relativisme, eh bien, où peut-être la foi est peut-être moins présente derrière des structures bien huilées, des organisations, en particulier caritatives ou sociales, dont l'Église en Allemagne est en effet très fière.
Le pape aurait-il lu votre lettre pastorale? Parce que c'est ce que vous dites, vous aussi, dans votre lettre pastorale.
Alors, c'est
avant les structures, c'est le renouvellement intérieur.
Voilà, c'est peut-être moi qui ai lu les enseignements du pape, qui sont souvent répétés depuis quelques années.
Peut-être un mot, justement, sur le dialogue entre Rome et les lefévristes. Vous suivez
Oui, j'ai un peu suivi ça, mais évidemment d'un peu loin aussi, parce qu'on est aussi très occupé de quant à nous. Vous voyez, je vois qu'il y a une ligne de fond sur laquelle je m'exprimerai un jour, mais je suis en train de relire les discours que le jeune Joseph Ratzinger, expert théologien au Concile, accompagnant son archevêque, le cardinal Frings, au Concile, pensait de ce rapport entre l'Église, dans son unité, qui est l'Église du Christ, qui en effet continue de perdurer de manière visible à travers l'Église catholique, et les Églises, comme dit saint Paul, l'Église qui est à Rome, l'Église qui est à Corinthe, l'Église qui est à Colosse. Et le futur pape, qui ne savait pas qu'il deviendrait pape, bien sûr, mais le jeune théologien disait que c'était un des grands enjeux du Concile Vatican II de montrer que dans l'unique Église du Christ, dont le principe de communion est le successeur de Pierre, qui est un service et pas seulement un pouvoir, doit abriter les églises particulières avec leur tradition. Avec leur tradition liturgique ou spirituelle, parfois même doctrinale, avec des discussions qui peuvent perdurer au sein de cette unique Église. Voyez, et je pense que cette idée de fond, qui est inscrite au cœur même du Concile, de l'engagement œcuménique en particulier, ou de l'ecclésiologie de communion de Lumen Gentium, ils la mettent en place d'une manière pratique, ou ils essayent en tout cas de la mettre en place dans l'Église. Et ils reconnaissent qu'il puisse y avoir plusieurs demeures dans la maison du Père, et il essaie d'atténuer le plus possible les oppositions que peuvent faire surgir des différences, en essayant de ramener les différentes réalités de l'Église, et c'est vrai au niveau œcuménique aussi, mais aussi ad intra de l'Église, sur l'essentiel de la foi, en rappelant que le Concile, il y a un noyau dur de la foi, qui est admissible par tout le monde et qui est fidèle à la tradition. Voilà ce qu'il dit aux traditionalistes, ou disons à la mouvance de Monsieur Lefebvre. Et voilà ce qu'il dit aussi aux autres. Et en disant qu'il peut y avoir des sujets plus périphériques qui peuvent conduire à des discussions au sein même de l'Église.
Et si Monseigneur Félé refuse la main tendue, qu'est-ce qui va se passer?
Alors moi, je suis pas Madame Soleil, hein, et je pense que ce préambule doctrinal qui invite Monsieur Fellet et la Fraternité Saint-Pie-X à se mettre d'accord sur l'herméneutique du Concile, donc fidèle à la tradition, peut-être que le Saint-Père pourra étudier une solution canonique pour la Fraternité Saint-Pie-X au sein de l'Église. Sinon, je pense qu'il risque d'y avoir une scission au sein de la frégate de Saint-Pilice, qui risque d'y avoir un durcissement des plus durs et un, j'allais dire, un rapatriement dans la mère patrie de l'Église par les plus ouverts, ceux qui finalement désirent rester fidèles à Rome et au magistère.
Oui, Monseigneur, d'un point de vue moins spirituel, mais concernant l'évolution de la vie sociale, il est beaucoup question depuis quelque temps de la crise économique et financière en Europe surtout, dont finalement nous ne sommes toujours pas sortis, avec toutes ses conséquences. Est-ce que l'évolution de la situation économique et sociale vous préoccupe ?
Bien sûr qu'elle me préoccupe, hein, et nous devons d'ailleurs améliorer encore le fonctionnement de notre observatoire sociopolitique, qui est encore évidemment en gestation, pour pouvoir nous ressaisir au niveau ecclésial, avec bien d'autres partenaires, au sein des mouvements et des services de notre diocèse, qui sont plus préoccupés par toutes ces questions politiques, sociales, culturelles, de ces questions, hein, avec un éclairage qui est l'éclairage de la foi. C'est sûr que nous voyons bien que cette crise économique et sociale est en train de mettre en jeu des équilibres. L'équilibre de l'Europe qui peine à se construire, l'équilibre du monde, alors que nous étions entrés dans une mondialisation à outrance des fonctionnements économiques, culturels et économiques, et avec un désir de gouvernance mondiale au plan politique. Cette remise en cause est en effet évidemment préjudiciable parce qu'elle, ce sont les plus pauvres, les plus démunis, dont le nombre grandit dans notre société d'aujourd'hui, comme on le sait, y compris dans nos sociétés dites riches de l'Occident, et c'est eux qui évidemment vont payer le plus lourdement la note. Mais en même temps, elle remet en cause la construction d'une Europe et d'un monde qui est basé sur la seule économie. Et on sait bien que si l'on base notre unité sur la seule économie, eh bien, on accentuera la fracture entre les riches et les pauvres, et finalement le pouvoir politique, eh bien, sera entre les mains des plus riches. Et par conséquent, cela remet en cause la manière de construire l'Europe, qui doit se construire autour d'un projet de valeurs qui sont d'ailleurs héritées de l'histoire, qui doivent, comme le dit sans cesse le pape Benoît XVI, en effet, le rappelle, retrouver ses racines chrétiennes. Retrouver l'âme qui constitue l'unité de l'Europe, cette communauté d'intérêts entre des nations différentes, et redécouvrir donc la source de l'unité européenne dans un projet culturel et dans un projet politique avant le projet économique.
Monseigneur Haillé, nous allons maintenant conclure cette émission en annonçant quelques événements à venir dans la vie diocésaine. Alors tout d'abord, le 8 octobre, c'est une rencontre agricole. Vous parliez justement de l'Observatoire sociopolitique. C'est une rencontre proposée par l'Observatoire sociopolitique.
Voilà, donc à Saint-Palais, agriculture et développement durable, quels enjeux pour le Pays Basque ? Donc inviter les agriculteurs du Pays Basque en particulier à réfléchir sur ces enjeux, hein, de l'agriculture qui est tellement menacée, tellement étranglée, d'une manière générale, hein, dans notre pays, dans l'Europe et dans le monde entier, avec les déséquilibres que nous connaissons, hein, et la paupérisation, les famines qui se développent ici ou là, les émeutes de la faim qui menacent quand même l'équilibre de notre planète. Et donc ici et maintenant, dans notre Pays Basque, comment aborder cette crise aussi de l'agriculture.
Donc c'est le 8 octobre, un samedi, de 10h à 16h, au lycée Jean-Éricard à Saint-Palais. C'est ouvert aux agriculteurs, mais c'est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par le sujet.
Tout à fait.
Ensuite, vous irez à Paris, visiter les Basques de Paris.
Oui, j'ai proposé en effet à la Maison Basque de Paris de faire une petite visite pastorale. Ça a été tout à fait bien accueilli. Il faut savoir que la Maison Basque de Paris, depuis une petite année maintenant, il y a une équipe d'animation pastorale qui a été mise en place, sachant que l'aumônier de la Maison Basque de Paris n'est plus un permanent, mais est un prêtre du diocèse, l'abbé Jean-Baptiste Mouneau, qui a aussi charge de paroisse et qui ne peut se rendre à Paris que quelques fois dans l'année. Donc il y a une équipe d'animation pastorale. Et j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui même une lettre du nouveau président de l'association qui gère toutes les associations qui font partie de la Maison Basque de Paris.
Pascual Echea.
Voilà. et qui me dit son souci que la proposition spirituelle puisse perdurer dans cette maison, et son souci qu'il y ait vraiment un aumônier qui soit présent le plus possible dans cette maison. Alors c'était l'occasion bien de faire une petite visite pastorale, de rencontrer les différentes associations, et puis de célébrer une messe, pour ceux qui le désirent, dans cette maison, le dimanche 16 octobre prochain.
Du 17 au 24 octobre, ce sera la semaine missionnaire mondiale, c'est un rendez-vous important aussi pour la vie de l'Église.
Tout à fait, comme chaque année, nous intéressons les fidèles aux missions lointaines, et puis nous leur rappelons leur devoir missionnaire là où ils sont, dans le monde d'aujourd'hui, qui est à évangéliser.
Comme je ne sais pas quand nous allons enregistrer la prochaine émission, Monseigneur Allier, il y aura aussi la fête de tous les saints, la fête des fidèles défunts tout début du mois de novembre. Qu'est-ce que vous diriez peut-être aux personnes qui ont perdu un être cher récemment dans la perspective de cette fête de la Toussaint?
D'être évidemment dans l'espérance. Nous célébrons tous les dimanches le mystère pascal du Christ, sa mort et sa résurrection. Il est bien évident que nous confions nos défunts à la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a payé un prix élevé pour nous sauver et pour nous sauver du péché à travers sa passion et sa mort sur la croix. Mais il a vaincu précisément la mort et le péché par sa résurrection. Et c'est là que s'ancre notre foi et notre espérance pour ceux qui nous ont quittés et que nous avons le désir de retrouver au-delà du rideau de la mort.
Merci beaucoup, Monseigneur Allier. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de vous retrouver avant ou après l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Donc, à très bientôt, en tout cas, et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Olivier Drapé, également.
Merci.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escute Israël.
C'était l'entretien du mois avec notre évêque, Monseigneur Marc Allier, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien sur notre site internet www.lapourdi.net.